Un adolescent, livre 3, suite du chapitre 10. 3. Il fallait renoncer à le rejoindre. Obéissant à une impulsion soudaine, je me rendis en grande hâte chez Anna Andreïevna. On m'admit immédiatement auprès d'elle. Sans m'asseoir, je lui racontai franchement la scène qui venait de se passer, celle du sosie. Jamais je n'oublierai et ne lui pardonnerai cette curiosité avide et impitoyablement calme dont elle m'écouta, debout aussi. « Où est-il ? » dis-je en finissant. « Vous le savez peut-être ? » Elle regarda la pendule. « 7 heures ? Il est certainement chez lui. »
« Je vois que vous savez tout. Parlez, parlez !»
m'étais-je écrié. « Je sais beaucoup, mais je ne sais pas tout. Naturellement, il n'y a pas à se cacher de vous. » Elle me toisait d'un étrange regard, en souriant et comme en calculant des probabilités. « Hier matin, il a fait à Catherine Nikolaïevna, en réponse à sa lettre, une formelle proposition de mariage.
« Ce n'est pas vrai !»
La lettre passa par mes mains, c'est moi qui la lui ai remise.
Anna Andreïevna, je ne comprends rien.
Il est comme un joueur qui jette sur le tapis sa dernière pièce d'or et qui a dans sa poche un revolver chargé. 9 chances sur 10 pour que Catherine Nikolaïevna n'accepte pas. Il compte sur la 10e chance. Et puis, peut-être était-ce son sosie qui agissait, comme vous le disiez si bien.
Et vous riez?
Puis-je croire que la lettre est passée par vos mains, vous, la fiancée du beau-père? Faites-moi grâce, Anna Andreïevna. Il m'a prié de sacrifier mon bonheur au sien.
Prié? Non, cela s'est arrangé assez silencieusement.
Seulement j'ai lu tout cela dans ses yeux. Il était allé à Königsberg chez votre maman, lui demandait la permission de se marier avec la belle-fille de Madame Akhmakov. Rien d'étonnant que cette fois il ait choisi sa propre fille pour déléguée et confidente. Elle était quelque peu pâle, mais son calme aggravait le sarcasme.
Savez-vous,
et je souris tout à coup, vous avez transmis la lettre parce que, convaincu que le mariage ne se ferait pas, vous estimiez ne rien risquer dans l'aventure. Évidemment, elle déclinera sa demande, et alors? Que peut-il arriver? Où est-il à présent, Anna Andreïevna? M'écriai-je. Chaque minute est précieuse, chaque minute peut déchaîner un malheur.
Il est chez lui, à la maison, je vous l'ai dit.
Dans sa lettre d'hier, par moi remise à Catherine Nikolaïevna, il lui demandait, en tout cas, un rendez-vous, chez lui, dans son appartement, à 7 heures du soir précise. Ce rendez-vous, elle le lui a accordé.
Elle? Chez lui? Est-ce possible?
Et pourquoi pas? Cet appartement appartient à Daria Onésimovna. Il pouvait s'y rencontrer en visite.
Mais elle a peur de lui. Il peut la tuer?
Anna Andreïevna se contenta de sourire. Malgré la peur qu'il lui inspire, Catherine Nikolaïevna a toujours eu de la vénération pour la noblesse de ses principes et sa supériorité d'esprit. Pour cette fois, elle s'est fiée à lui afin d'en finir. Dans sa lettre, il lui a donné sa parole de gentilhomme qu'elle n'avait rien à craindre. Elle a, de son côté, manifesté des sentiments non moins chevaleresques. Il a pu y avoir entre eux joute de courtoisie.
Oui, mais il y a le sosie.
« Le sosie ! » exclamai-je, « puisqu'il est devenu fou !» Quand elle s'engageait à venir au rendez-vous, Catherine Nikolaïevna ne prévoyait pas cet incident. Je me dirigeai vers la porte, mais tout à coup revins sur mes pas, regardant ma demi-sœur bien en face. « Mais peut-être vous est-il nécessaire qu'il la tue ! » criai-je, et je sortis en courant. Quoique je tremblasse de fièvre, j'arrivai à l'appartement sans bruit, par la cuisine. À voix basse, je dis à la bonne d'appeler Daria Onésimovna. Mais déjà celle-ci arrivait, et muette, attachait sur moi un regard interrogateur.
« Lui, il n'est pas à la maison. »
Mais je lui exposai que je savais tout par Anna Andreïevna et que je venais droit de chez elle.
« Daria Onésimovna, où sont-ils ? dans la pièce où vous étiez avant-hier, devant la table. Daria Onésimovna, laissez-moi entrer là-bas.
Ce n'est pas possible.
Pas là-bas, mais dans la pièce contiguë. Daria Onésimovna, peut-être qu'Anna Andreïevna le veut. Si elle ne l'avait pas voulu, elle ne m'aurait pas dit qu'ils sont là. Ils ne m'entendront pas. Elle-même le veut.
Est-ce bien sûr ?
Elle ne cessait pas de me scruter de l'œil.
Daria Onésimovna, je me souviens de votre Olia. Laissez-moi entrer.
Ses lèvres et son menton tremblèrent.
Cher petit, rien que pour Olia, pour ton sentiment, n'abandonne pas Anna Andreïevna, cher petit.
Tu ne l'abandonneras pas, dis. Tu ne l'abandonneras pas.
Je ne l'abandonnerai pas.
Donne-moi ta parole d'honneur de ne pas te précipiter chez eux et de ne pas crier si je te cache là-bas.
Sur mon honneur, Daria Onésimovna.
Elle me conduisit par la manche dans une chambre très sombre, plaça une chaise près de la porte, un épais tapis étouffait les pas, m'installa et, par l'hiatus de la portière, me les montra tous les deux. Elle s'en alla. Je me résignai vite à mon rôle d'espion. Après tout, je surveillais non André Petrovitch, mais le sosie qui avait déjà brisé l'icône. 4. Ils étaient assis en face l'un de l'autre, à cette même table où nous avions bu à sa résurrection. Je distinguais nettement leur visage. Elle, en sa simple robe noire, était belle et manifestement calme, comme toujours. C'est lui qui parlait, et elle l'écoutait avec une attention déférente. Quant à lui, il était horriblement excité. La conversation était déjà en cours, et d'abord je n'y compris rien. Je me rappelle, elle avait demandé tout à coup « Et c'est moi qui en fus la cause ?»«
Non, moi, » répondit-il, « vous êtes coupable involontairement. Vous savez qu'on peut être innocent et coupable. Ce sont les fautes les plus impardonnables, et elles sont presque toujours châtiées. »
ajouta-t-il avec un rire singulier. « Je crus un moment vous avoir oublié tout à fait et ris de ma passion imbécile. Mais vous savez cela. Après tout, que m'importe l'homme avec qui vous vous mariez? Hier, je vous ai demandé votre main.
Excusez-moi, c'était une absurdité.
Pourtant, qu'aurais-je pu faire hors cette absurdité? Je ne vois pas. » Grimaçant un rire équivoque, il leva les yeux vers elle. Jusque-là, il semblait regarder de côté, et, quittant tout à coup sa chaise, « Dites, comment avez-vous pu consentir de venir ici, à l'appel d'une lettre extravagante? Est-ce que vous n'êtes venu que par crainte ?»«
Je suis venu pour vous voir, » prononça-t-elle, en le regardant avec une timide circonspection.
Une demi-minute, ils restèrent muets. Versilov avait repris place sur sa chaise. D'une voix douce, pénétrante, presque tremblante, il commença.
« Depuis 2 ans, nous ne nous sommes vus.
Soit, ce qui est passé est passé, et ce qui est disparaîtra demain comme une fumée. Soit.
Mais de grâce, Catherine Nikolaïevna, puisque vous m'avez fait l'aumône de venir, ne vous en allez pas sans avoir répondu à une question. »
« À quelle question ?»«
Nous ne nous reverrons jamais. Vous pouvez donc être franche. Dites-moi la vérité. M'avez-vous jamais aimé ou me suis-je trompée ?»«
Je vous ai aimé, » répondit-elle en rougissant. Je m'attendais à ce qu'elle dit cela.
Oh, la sincère ! Oh, la franche ! Oh, la loyale !
Et maintenant, continua-t-il, « maintenant, je ne vous aime pas. »«
Et vous riez ?»«
Non, je viens de sourire contre mon gré, parce que je savais que vous demanderiez. Et maintenant, lorsqu'on devine, on sourit toujours. »«
Je sais que vous ne m'aimez pas. Et vous ne m'aimez pas du tout ?»«
Il se peut que je ne vous aime pas du tout. »«
Je ne vous aime pas, » ajouta-t-elle fermement, sans sourire et sans rougir.
« Oui, je vous ai aimé, mais pas longtemps. J'ai vite cessé de vous aimer. »«
je sais, vous vous êtes aperçu que je n'étais pas ce qu'il vous fallait. Mais que vous faut-il ?
Expliquez-moi cela encore une fois.
Quand donc vous l'ai-je déjà expliqué?
Je suis une femme tout à fait ordinaire. Je suis une femme calme. J'aime les gens gais.
Gais?
Vous voyez, je ne sais même pas parler sur votre ton. Il me semble que si vous aviez pu m'aimer moins, je vous aurais aimé encore.
Avait-elle souri d'un sourire craintif?
Bioring est un homme gai.
Il ne doit pas vous inquiéter,
répondit-elle avec une sorte d'empressement.
Je l'épouse uniquement parce qu'avec lui je serai tranquille. Mon âme entière me restera.
On dit que de nouveau vous aimez la société, le monde.
Je sais que dans notre société règne le même désordre que partout, mais extérieurement les formes restent encore belles, de sorte que vivre pour vivre mieux vaut ici qu'ailleurs.
J'ai souvent entendu le mot désordre. Dans le temps, vous aviez peur aussi de mon désordre, des chaînes, des idées, des bêtises.
Non, ce n'était pas cela du tout.
Quoi? Au nom de Dieu, dites tout.
Je parlerai franc, car je vois en vous un esprit supérieur. Eh bien, je ne pouvais me défendre de trouver en vous quelque chose de ridicule.
Ayant dit, elle rougit, comme s'apercevant qu'elle venait de commettre une extrême imprudence.
Pour ce que vous venez de me dire, je peux vous pardonner beaucoup.
Je n'ai pas achevé, s'empressa-t-elle. C'est moi qui suis ridicule, rien que de vous parler comme une sotte.
Non, vous n'êtes pas ridicule. Vous n'êtes qu'une perverse femme du monde,
fit-il, pâlissant terriblement.
Moi non plus, je n'avais pas achevé lorsque je vous demandais pourquoi vous êtes venu. Voulez-vous que j'achève?
Il existe un document, une lettre, et qui vous fait peur, parce que votre père, cette lettre dans les mains, vous maudirait et vous déshériterait. Vous êtes venu pour avoir cette lettre,
acheva-t-il, tremblant et presque claquant des dents. Elle l'écoutait avec une expression anxieuse et douloureuse.
« Je sais que vous pouvez me causer beaucoup d'ennui, » dit-elle. « Pourtant je suis venue, moins pour vous persuader de ne pas me poursuivre que pour vous voir en personne. Je désirais depuis longtemps vous rencontrer, mais je vous vois telle que vous étiez jadis. »
« Et vous espériez me trouver autre ? Cela, après ma lettre où je célébrais votre perversité ?
Dites, vous veniez ici sans aucune peur ?
Je suis venue parce que je vous avais aimé. Mais je vous en prie, ne me menacez de rien, tandis que nous sommes ici ensemble. Ne me rappelez pas mes vilaines pensées et mes mauvais sentiments. Si vous aviez pu causer avec moi d'autre chose, j'aurais été très contente. Il y a temps pour les menaces. Vraiment, je suis venue pour vous voir, pour vous entendre. S'il vous est impossible de me parler avec calme, eh bien, tuez-moi. « Tout simplement, mais ne me menacez pas et ne vous torturez pas devant moi. »
Il se leva de nouveau et, la regardant d'un regard ardent,
« Vous sortirez d'ici sans le moindre outrage. »«
Ah oui, votre parole d'honneur, » sourit-elle.
« Pas seulement pour la parole d'honneur que vous donnez ma lettre, mais parce que je veux me complaire à penser à vous toute la nuit. »
« À vous tourmenter ?»
Je vous évoque toujours lorsque je suis seule. Je ne fais que vous parler. Je m'en vais dans des bouges, et par contraste, vous m'apparaissez. Mais vous riez de moi toujours, comme à présent.
Il avait dit cela comme hors de lui.
Jamais, jamais je n'ai ri de vous,
s'écria-t-elle d'une voix pénétrée et compatissante.
Je suis venue ici pour vous dire que, presque, je vous aime.
« Excusez-moi, peut-être n'ai-je pas bien dit, »
ajouta-t-elle vivement. Il se mit à rire.
« Vous êtes trop simple, ma chère. Dit-on à un homme que l'on chasse, « Je vous aime presque. »
Je me suis mal exprimée. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. Dès notre première rencontre, vous me décontenanciez. Mon expression... « Je vous aime presque » est inadmissible, mais la pensée était claire. Voilà pourquoi j'ai dit cela. quoique je ne vous aime que d'un amour général, l'amour dont on aime tout le monde et que l'on ose toujours avouer. »
Muet, sans détacher d'elle son regard ardent, il l'écoutait.
« Naturellement, je vous offense, » répliqua-t-il. « C'est l'inconvénient de ce que l'on appelle la passion. Je ne sais qu'une chose. Auprès de vous, je suis fini. Sans vous, de même. Loin ou près, où que vous soyez, vous êtes toujours près de moi. Je sais aussi que je peux vous haïr, plutôt que de ne pas vous aimer. Du reste, depuis longtemps, je ne désire rien. Tout m'est égal. Je regrette seulement de m'être épris d'une telle... » Il suffoquait.
« Que voulez-vous ? Il est insensé à moi de vous parler ainsi. »
Sourit-il d'un sourire pâle. « Je crois que, si cela vous avait pu charmer, je me serais tenu 30 ans debout sur une patte. Je vois que vous me plaignez. Votre visage dit « Je t'aimerais si je pouvais, mais je ne peux pas. » Oui, cela ne fait rien. Je n'ai pas d'orgueil. Je suis prêt, comme un mendiant, à accepter de vous n'importe quelle aumône. Vous entendez ? N'importe laquelle. Un mendiant n'a pas à faire le dégoûter. »
Elle se leva, s'approcha de lui.
« Mon ami, » dit-elle, lui posant sa main sur l'épaule, « je ne peux entendre de telles paroles. Je penserai à vous toute ma vie comme à un homme précieux, comme au plus grand des cœurs, comme à une âme sacrée. André Petrovitch, comprenez mes paroles. Ce n'est pas pour rien que je suis venu, cher ami. Alors, comme aujourd'hui, si cher, je n'oublierai jamais combien vous avez remué mon esprit dès nos premières rencontres. Quittons-nous donc comme des amis, et vous serez la plus délicieuse, la plus sérieuse pensée de ma vie. »
Quittons-nous, et je vous aimerai alors. J'aimerais seulement... Quittons-nous.
Écoutez, prononça-t-il blême, faites-moi encore une aumône. Ne m'aimez pas. Ne vivez pas avec moi, ne nous voyons jamais. Je serai votre esclave, prêt à accourir à un appel et à disparaître. Seulement, ne vous mariez avec personne. »
Mon cœur se serra jusqu'à la douleur. Cette prière naïvement humiliée était d'autant plus pitoyable, elle perçait d'autant plus le cœur qu'elle était manifestement irréalisable.
Oui, certes, il demandait une aumône. Mais pouvait-il penser qu'elle y dût consentir? Et tout de même, il s'abaissait à l'implorer.
Ses traits s'altérèrent jusqu'à l'extrême souffrance. Mais, avant qu'elle eût pu dire un mot,
« Je vous détruirai !»
fit-il d'une voix qui n'était pas la sienne. Elle lui répondit aussi singulièrement, d'une voix inattendue qui non plus n'était pas à elle.
« Que je vous donne l'aumône, et vous vous en vengerez après, plus encore que vous ne m'en menacez à présent, parce que vous n'oublierez jamais que vous êtes resté devant moi en posture de mendiant. Je ne peux pas entendre de menaces de vous. »
Termina-t-elle avec indignation, le regard presque provocateur.
« De menaces de vous, c'est-à-dire d'un pareil mendiant ? J'ai plaisanté, » dit-il avec un sourire paterne. « Je ne vous ferai rien, ne craignez rien. Allez, et je tâcherai de toutes mes forces de vous envoyer le document. Mais partez vite, je vous ai écrit une lettre imbécile. Vous avez répondu et vous êtes venu. Nous sommes quittes. Non, c'est par ici. »
Elle avait voulu passer par la chambre où j'étais aux écoutes.
« Pardonnez-moi, si vous pouvez, »
fit-elle, s'arrêtant sur le seuil.
Et si un jour nous nous rencontrons, nous nous ressouviendrons de cette scène avec un sourire serein ?
Dit-il. Tout son visage tremblait.
Que Dieu veuille !
Allez, nous n'avons guère d'esprit l'un ni l'autre. Vous êtes une personne de ma trempe. J'ai écrit une lettre insensée, et vous, vous êtes venu pour me dire que vous m'aimiez presque. Non, nous sommes des gens possédés de la même folie. Soyez toujours aussi folle. Ne changez pas, et nous nous rencontrerons en amis. Je vous le prédis, je vous le jure. »
Et c'est alors que je vous aimerai sûrement, dit-elle, bien féminine.
Elle était sortie.
Vivement et sans faire de bruit, je regagnai la cuisine et, sans regarder Daria Onésimovna, dégringolai par l'escalier de service. J'arrivai dans la rue juste à temps pour la voir partir, dans la voiture qui l'attendait. Je courus. Chapitre 11. 1. Où ? Chez Lambert. À présent même que je peux tout peser, je suis incapable de me représenter l'affaire dans sa suite logique. Naturellement, je devais m'égarer dans le chaos de mes idées. Il est vrai, un sentiment supérieur dominait tout, mais dois-je l'avouer ? D'autant plus que je ne suis pas sûre. J'entrai au pas de course chez Lambert, et les effrayai, lui et son Alphonsine, de mon impétuosité. D'ailleurs, les Français, et je dis les plus dévoyés, les plus crapuleux, ont toujours dans leur intérieur la superstition d'une sorte de décorum. Je dois dire, d'ailleurs, que Lambert ne tarda pas à s'éjouir de me voir chez lui, de me posséder enfin. Il ne pensait, nuit et jour, qu'à cette conjoncture. Oh, comme il avait besoin de moi! Et quand il avait perdu presque tout espoir, voilà que j'arrive spontanément, et dans le plus favorable état de folie. Lambert, du vin, buvons, tapageons. Alphonsine, où est cette guitare? Je ne décris pas la scène, c'est inutile. Nous bûmes, et je lui racontai tout. Il écouta avidement. Nul crime n'était assez reluisant pour mon ambition. Primo, nous devions convoquer chez nous Catherine Nikolaïevna par une lettre où nous parlerions évasivement d'un individu venu de Moscou. « Parfait !» approuvait Lambert. Deuxièmement, nous lui envoyons la copie in extenso de son document pour qu'elle voie que ce n'est pas de la plaisanterie. « Parfait !» approuvait Lambert qui criblait Alphonsine de coups d'œil. Troisièmement, j'amène Versilov.
« Versilov aussi ? Parfait !» approuvait Lambert.
« On peut. »«
Non seulement on peut, mais il faut !»
avais-je crié.
« Indispensable ! C'est pour lui que tout cela se fait !»
expliquai-je en buvant à lampée. Nous avions tous les trois le verre en main, mais il me semble que je vidais à moi tout seul la bouteille entière de champagne et qu'il faisait semblant de boire.
« Versilov et moi resterons dans une pièce voisine. Lambert, il faut se procurer une autre chambre. Et lorsqu'elle consentira à tout, à la rançon argent et à une rançon nature, car elles sont lâches toutes, alors Versilov et moi sortirons et la convaincrons de sa lâcheté. Et Versilov, devant son ignominie, guérira du coup et la chassera à coups de pied. Mais il y faut encore Buring, qu'il la voie aussi. »
avais-je ajouté en délire. « Non, il ne faut pas de Buring, » se permit d'objecter Lambert.
« Il faut un Buring, il en faut un !»
vociférai-je. « Tu ne comprends rien, Lambert, parce que tu es sombrement bête. Il faut que le scandale se répande dans le grand monde. De la sorte, nous nous vengerons du grand monde aussi. Et qu'elle soit châtiée. Lambert, elle te donnera une lettre de change. De l'argent, je n'en ai pas besoin. Je cracherai sur l'argent. Et toi, tu te baisseras et le fourreras dans tes poches, pêle-même avec mes crachats. »
Parfait,
approuvait Lambert en clignant vers Alphonsine. Mais dis-tu tout cela sérieusement?
Lambert, elle est en adoration devant Versilov. Je m'en suis convaincu tout à l'heure.
Mon vieux, tu es malin d'avoir vu tout cela. Je ne t'aurais jamais cru si bon espion et si intelligent. » il disait pour me flatter.
« Tu mens, Français, je ne suis pas espion, mais je suis très intelligent.
Et sais-tu, Lambert, elle l'aime !» continuai-je, m'évertuant à tout raconter. « Et malgré ça, elle ne se mariera pas avec lui, parce que Buring est dans la garde et que Versilov n'est qu'un homme généreux et ami de l'humanité. Donc, selon eux, un personnage ridicule et rien de plus. Oh, elle comprend cette passion, et elle s'en réjouit, fait la coquette, l'enjôle, mais rien ne sera. C'est une femme, c'est une vipère. Toute femme est vipère, et toute vipère est femme. Il faut le guérir, il faut arracher le voile. Qu'il voit ce qu'elle est, et il guérira. Je l'amènerai chez toi, Lambert.
Parfait,
approuvait Lambert. Il mettait tous ses soins à ne me contredire par la moindre objection, et à me faire boire. Son manège était si grossièrement évident que je ne pouvais pas ne le pas remarquer, même alors. Mais je ne pouvais plus m'en aller. Je buvais toujours et je parlais, et finalement voulais tout dire. Lorsque Lambert alla chercher une deuxième bouteille, Alphonsine gratta sur la guitare un air espagnol. Je faillis pleurer.
« Lambert, est-ce que tu sais bien tout ? »
exclamai-je avec un sentiment profond.
« Il faut absolument sauver cet homme. Autour de lui, c'est le sortilège. Si elle s'était mariée avec lui le matin de la première nuit, il l'aurait chassée ignominieusement. Cela arrive, parce qu'un amour si exaspéré et si féroce, un amour qui vous serre à la gorge comme un nœud coulant, qui vous travaille le sang comme une maladie, un tel amour, une fois satisfait, ne vous laisse que dégoût et haine, envie de détruire et d'écraser. Connais-tu l'histoire d'Abissag, Lambert ? L'as-tu lu ?
Non, je ne me souviens pas. Un roman ?
Balbutia Lambert.
Tu ne connais rien, Lambert. Tu es ignorant à n'en plus finir. Mais je m'en moque. Oh, il aime maman. Il baisait son portrait. Il chasserait l'autre le lendemain matin et se réfugierait chez maman. Mais il serait déjà tard, et c'est pourquoi il faut le sauver dès à présent.
À la fin, je me mis à pleurer amèrement, mais je continuais à jacasser et à boire. Détail caractéristique. De toute la soirée, Lambert ne s'enquit pas une seule fois du document. Quoi de plus naturel pourtant que de le réclamer, puisqu'on était sur le point de s'en servir. Nous disions seulement ce qu'il fallait faire, mais où et quand nous le ferions, nous n'en avions pas touché mot. Il m'approuvait et œillait Alphonsine, rien de plus. Naturellement, je voyais ces manigances, sans les interpréter, dans l'état où j'étais. Je finis par m'endormir chez lui, sur le sofa, tout vêtu. Il était très tard quand je me réveillais. Je me souviens que, m'étant réveillée, j'étais restée étendue, faisant semblant de dormir et m'efforçant de prendre une idée nette de la situation. Mais Lambert ne se trouvait plus dans la chambre, il était parti. 10 heures. Le poêle pétillait, tout comme l'autre fois, quand, après la nuit dans la neige, j'avais fait mes débuts chez Lambert. Mais derrière le paravent, Alphonsine veillait sur moi. 2 fois elle se montra et me regarda attentivement. Mais chaque fois je fermais les yeux et feignis le sommeil. Je sentais avec terreur l'absurdité et la vilenie de ma confession nocturne à Lambert. Et quelle imprudence j'avais commise en venant chez lui. Mais du moins le document était toujours sur moi, solidement cousu. Je le tâtais, il était là. Donc, je n'avais plus qu'à me lever et prendre la porte. Et je n'aurais même pas à avoir honte devant Lambert. Peut-on avoir honte devant un malandrin de cet acabit ? Mais j'avais honte devant moi-même. J'étais mon propre juge. Et, ô Dieu, que se passait-il dans mon âme ? Qu'on le sache donc. Ce n'était pas pour sauver l'insensé Versilov et le rendre à maman que je voulais déshonorer Catherine Nikolaïevna et me préparais à être témoin d'un stupre. Avec Lambert, pouah ! Mais parce que j'étais amoureux moi-même et que j'étais jaloux. De qui jaloux ? De Buring ? De Versilov ? Le sais-je ? De ceux qu'elle regardera au bal, à qui elle parlera, tandis que je me tiendrai dans un coin, honteux de moi-même. Oh, boue ! Ainsi, la vilenie de mes motifs, que j'ai tue longtemps, je la confesse donc, mais avec réticence. Mon aveu, en effet, ne me calomnie-t-il pas ? Il semble bien que ma haine de la nuit dernière fût celle d'un irresponsable,
et j'ai déjà dit dans quel chaos pataugeaient mes idées. Mais je ne veux pas exagérer en sens inverse. Une partie des bas sentiments dont je m'accuse était certes en moi. L'alcool n'en fut que le réactif. Dégoûté de moi, mais avec la ferme intention de tout réparer, je sautai à bas du canapé. Aussitôt, Alphonsine manifesta sa présence. Saisissant ma pelisse et mon chapeau, je lui enjoignis de dire à Lambert que toutes mes paroles d'hier n'étaient que divagations ou plaisanteries, que j'avais calomnié une femme et que je lui consignais ma porte, à lui, Lambert. Je fis cette déclaration hâtivement en français et naturellement de façon très embrouillée. À mon étonnement, Alphonsine avait parfaitement compris. Et, chose plus étonnante, elle paraissait ravie. « Oui, oui, » acquiesçait-elle. « C'est une honte, une dame. Oh, vous êtes généreux, vous. Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert. » Un changement si inopiné dans ses sentiments, et par conséquent peut-être dans ceux de Lambert, eût dû me paraître louche. Mais je sortis sans rien dire. J'étais bien capable de raisonner. Oh, peu après, j'ai compris. Mais il était déjà trop tard. Je m'arrêterai ici et expliquerai d'avance l'infernale machination. Voici. Dès ma première entrevue avec Lambert, alors que je dégelais dans son appartement, je lui avais raconté, imbécile, que le document était cousu à ma poche. Puis je m'étais endormie sur son canapé et Lambert avait immédiatement palpé ma poche et s'était convaincu qu'en effet, un papier y était cousu. Il avait, en d'autres circonstances, renouvelé cette vérification. Ainsi, par exemple, pendant le dîner chez les Tatars, il m'avait, je m'en souviens, enlacé. Moi, comme un nigo, je m'imaginais qu'il m'invitait avec tant d'insistance uniquement pour me décider à agir de concert avec lui. Hélas, il m'invitait pour toute autre chose. Il m'invitait pour m'enivrer à mort et s'emparer du document. Ainsi précisément venait-il d'agir cette nuit. Alphonsine avait coupé la poche. Ayant enlevé la lettre à Akhmakov, mon document de Moscou, il lui avait substitué un papier de même consistance et de même format. Alphonsine avait recousu, pli et doublure. Et moi, ne m'étant douté de rien, je restais convaincu pendant un jour et demi que je détenais le sort de Catherine Nikolaïevna. Ce vol du document eut des conséquences tragiques. 2. Me voici aux dernières 24 heures de mon journal. Il était, je crois, près de 10h30. J'allais vers mon logis, énervé, singulièrement distrait, mais avec une résolution définitive dans le cœur. Je ne me pressais pas. Je savais comment j'agirais. Or, à peine arrivé, je constatai que l'affaire venait d'entrer dans une phase nouvelle. Le vieux prince, récemment amené de Tsarskoïe Selo, se trouvait dans notre maison, et Anna Andreïevna était auprès de lui. On l'avait installé à côté de ma chambre, dans les deux chambres du logeur, lesquelles avaient bénéficié de certains embellissements, du reste tout superficiel. L'hôte et sa femme s'étaient réfugiés dans la chambrette du locataire grincheux dont j'ai déjà parlé, et le dit locataire avait été relégué je ne sais où. Le logeur se faufila immédiatement dans ma chambre. Sans lui dire un mot, je m'assis dans un angle et, me prenant la tête à deux mains, je restai ainsi une minute. Il avait pensé d'abord que je posais, mais à la fin, il n'y tint plus et prit peur. « Est-ce que ça ne va pas ?» balbutia-t-il. « Je vous attendais pour savoir. Par le couloir, la communication est si incommode. Ne voulez-vous pas qu'on ouvre cette porte pour faire communiquer directement la chambre du prince avec la vôtre ?» Il indiquait la porte latérale, toujours fermée. « Voici, Pierre Hippolytovitch, répliquai-je d'un air sévère. « Allez inviter tout de suite Anna Andreïevna à se rendre auprès de moi. Est-elle depuis longtemps ici ?»« Une heure environ. »« Allez. » Il revint un instant après,
m'informer qu'Anna Andreïevna et le prince Nicolas Ivanovitch m'attendaient avec impatience chez eux. Anna Andreïevna n'avait donc pas voulu venir. Je me brossais, me débarbouillais, me peignais, tout cela avec lenteur. Puis je me rendis chez le vieillard. Il était assis près de la table ronde. Anna Andreïevna était assise dans un autre coin, près d'une deuxième table, couverte d'un apeuron et où bouillait le samovar, fourbi à neuf de la logeuse. Le vieillard, remarquant l'expression sévère de mon visage, tressaillit, et son sourire devint une grimace de frayeur. Mais déjà je m'amadouais. Je ris et lui tendis les mains. Le malheureux se jeta dans mes bras. Du vieillard encore vert, souvent lucide et dont la volonté n'était pas abolie, ils avaient fait un enfant méfiant et craintif. Tout s'était passé comme je l'exposais tout à l'heure. Après l'avoir rompu par la nouvelle de la trahison de sa fille et par l'évocation de l'asile d'aliénés, on lui avait dit que je détenais le document clé de la situation et qu'après l'avoir vu, il serait à même de prendre sa décision définitive. Je le dirai d'avance, examiner ce document et prendre une décision. Cette perspective l'épouvantait plus que tout au monde. Il s'attendait à me voir entrer chez lui, l'arrêt sur le front et le papier dans la main. Il fut donc extrêmement heureux de constater que j'étais prêt à bavarder et à rire. Lorsque nous nous embrassâmes, il pleura, et je pleurai un peu, moi aussi, cependant que j'appelai le bichon. Le prince, depuis qu'il l'avait acquis d'Alphonsine, ne s'en séparait plus. Ils couchaient ensemble. « Oh ! Je disais qu'il a du cœur » exclama-t-il en me désignant à Anna Andreïevna. « Mais comme vous avez repris, prince, quelle mine superbe, fraîche, saine !» Hélas, la mine était d'une momie. « N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? » répétait-il joyeux. « Oh, je me porte à merveille !»« Buvez donc votre thé !» Si vous m'en offriez une tasse, j'en prendrais volontiers avec vous. Excellente idée! Buvons et nous réjouissons. Ou quelque chose dans ce genre. Il y a des verres ainsi. Anna Andreïevna, versez-lui du thé. Il prend toujours par les sentiments. Donnez-lui du thé, ma chère. Anna Andreïevna me servit, mais subitement elle se tourna vers moi et commença avec une grande solennité. Arkadi Makarovitch, tous deux, mon bienfaiteur, le prince Nicolas Ivanovitch, et moi, nous nous sommes abrités sous votre toit. Nous nous considérons comme vos hôtes, à vous personnellement. C'est vous qui nous donnez abri. Souvenez-vous que la destinée de ce saint homme, si noble et si éprouvé, est entre vos mains. Nous attendons la décision que votre cœur vous dictera. Elle ne put pas achever. Le prince tremblait de peur. Après, n'est-ce pas, cher ami ? Répétait-il en levant vers elle des mains implorantes. Je ne saurais exprimer combien cette sortie d'Anna Andreïevna me fut désagréable. Je ne répondis que par un componctueux salut, m'assis et commençai à caqueter, à rire et à faire de l'esprit. Le vieillard, reconnaissant, s'égaya avec enthousiasme. Mais cette gaieté pouvait instantanément se résoudre en prostration. « Cher enfant, j'ai entendu dire que tu étais malade. Ah, pardon, j'ai entendu dire que tu t'as donné au spiritisme. » « Je n'y ai jamais pensé, » avais-je souri. « Non ? Et qui donc m'avait parlé de spiritisme ? » « C'est cet employé, ce Pierre Hippolytovitch, qui vous en parlait tantôt, » expliqua Anna Andreïevna. « Un homme très gai et qui possède quantité d'anecdotes. Voulez-vous que je l'appelle ?»« Oui, il est charmant. Il possède quantité d'anecdotes, mais mieux vaut l'appeler plus tard. Nous l'appellerons et il nous racontera tout, mais plus après. » Figure-toi que comme on préparait la table, il me dit «
Ne vous inquiétez pas, pas de danger qu'elle s'envole. Nous ne sommes pas des spirites.
Est-ce que les tables volent chez les spirites?
Ma foi, je ne sais pas. Mais on dit qu'elles se soulèvent de tous leurs pieds.
Mais c'est terrible ce que tu dis,
me regarda-t-il apeuré. Peu, ne vous inquiétez pas, ce sont des sottises.
C'est bien ce que je dis aussi. Anastasie Stéphanovna Solomieyev, tu la connais bien?
Ah non, tu ne la connais pas. Imagine-toi qu'elle croit aussi au spiritisme.
Et imaginez-vous, cher enfant, il se tourna vers Anna Andreïevna. Je lui dis, dans les ministères, il y en a aussi des tables et sur lesquelles 8 paires de mains sont posées pour les écritures administratives. Pourquoi donc ces tables restent-elles tranquilles? Imagine qu'elles se mettent en route tout à coup. Une émeute de tables aux finances ou à l'instruction publique. Il ne manquerait que cela.
Les choses charmantes que vous dites, prince, vous n'avez pas changé,
m'étais-je écrié en forçant mon rire.
N'est-ce pas? Je ne parle pas trop, mais je dis bien.
De la joie rayonna dans ses yeux. Anna Andreïevna, rassurée sur mes dispositions, osa sortir. Mais, à peine disparue, le vieillard, dont le visage avait instantanément changé d'expression, inspecta la chambre d'un regard circulaire et, se penchant vers moi,
« Cher ami, chuchota-t-il,
oh, si je pouvais les voir ici toutes deux, ensemble, oh, cher enfant !»«
Prince, calmez-vous.
Oui, oui, mais nous les réconcilierons, n'est-ce pas? Ce n'est que la futile querelle de deux dignes femmes, n'est-ce pas? Je n'ai d'espoir qu'en toi seul. Mais quel singulier appartement! Et ce propriétaire, il a une figure. Dis, il n'est pas dangereux?
Le propriétaire? Pierre Hippolytovitch?
Non, certes, lui dangereux.
C'est ça, tant mieux. Il semble qu'il est bête, ce gentilhomme.
Cher enfant, au nom du Christ, ne dis pas à Anna Andreïevna qu'ici j'ai peur de tout. J'ai tout loué ici, du premier coup, et j'ai loué le propriétaire aussi.
Écoute, tu connais l'histoire de Von Zone, tu te souviens?
Eh bien, quoi?
Rien, rien du tout. Mais je suis libre ici, n'est-ce pas?
Qu'en penses-tu? Ici, rien ne peut m'arriver dans ce genre.
Mais je vous assure, cher prince, voyons.
Mon enfant !» exclama-t-il en joignant les mains devant lui et ne dissimulant plus sa peur.
« Si en effet tu as quelque chose, des documents, en un mot, si tu as à me dire quelque chose, ne le dis pas. Au nom de Dieu, ne dis rien du tout. Ne dis rien le plus longtemps possible. »
Il voulut s'élancer, m'embrasser. Les larmes ruisselaient selon les dépressions et les reliefs de son pauvre visage. Il était comme un enfant volé par des nomades. Mais on ne nous laissa pas nous embrasser. La porte s'ouvrit et Anna Andreïevna entra, avec le chambellan, son frère. Stupéfait, je me levai, me dirigeai vers la porte.
« Arkad Makarovitch, laissez que je fasse la présentation, » prononça Anna Andreïevna, de sorte que je dus interrompre mon mouvement de retraite.
« Je connais déjà trop votre frère, » dis-je en appuyant sur le « trop ».«
Ah, il y a un bien fâcheux malentendu. Je suis tellement coupable, cher André Makarovitch, »
déplora le jeune homme, s'approchant de moi d'un air très dégagé et s'emparant de ma main que je ne pouvais reprendre.
« Toute la faute incombe à mon Stéphane. Il avait si bêtement annoncé que je vous avais pris pour un autre. »
« C'était à Moscou, » expliqua-t-il à sa sœur.
« Ensuite, je fis tous mes efforts pour vous retrouver, me justifier. Mais je tombais malade. Demandez-lui.
« Cher prince, nous devons être amis, même par droit de naissance. » Dégageant mon épaule du bras dont il la cerclait, je sortis sans dire un mot et regagnai ma chambre. Je m'assis sur mon lit, perplexe. L'intrigue me pesait. Et pourtant je ne pouvais, d'un coup, sacrifier Anna Andreïevna, car elle aussi m'était chère, et sa situation était terrible.
3.
Comme je l'avais pensé, elle va me rejoindre dans ma chambre.
« Je vous ai tout dit, Arkad Makarovitch, » commença-t-elle. « Notre destinée est entre vos mains. »
« Non, je vous l'ai dit, je n'ai pas le droit d'accomplir l'acte sur quoi vous comptez. »«
Oui, c'est là votre réponse ? » ?»« Soit, et je peux périr. Mais le vieillard, avant ce soir, il deviendra fou. »
« Il ne deviendra fou que si je lui prouve que sa fille a voulu le faire interner. Cette révélation, voilà ce qu'il ne supportera pas. Sachez d'ailleurs qu'il ne croit pas à cette lettre, il me l'a dit. » J'exagérais, mais pour les besoins de la cause.
« Je m'en doutais. En ce cas, je suis perdue. Déjà, il a pleuré et demande à rentrer chez lui. »
« Expliquez-moi en quoi consiste précisément votre plan. » Atteinte dans son orgueil, elle rougit. Néanmoins,
« Cette lettre de sa fille nous disculpe aux yeux du monde. Je mettrai tout de suite au courant de la situation le prince V et Boris Mikhailovitch Pelitchev, ses amis d'enfance. Ce sont personnages influents qui, il y a 2 ans, s'indignaient déjà de certains procédés de sa dure et cupide fille. Ils le réconcilieront avec elle. » Mais sur ma prière formelle, sur mes personnelles instances, j'aurai donc le rôle sympathique. En outre, j'aurai l'appui de mes parents maternels, les Fanariotov. Mais pour moi, le principal, c'est son bonheur. Qu'il sache enfin, par expérience, qui lui est dévoué réellement. Par-dessus tout, je compte sur votre influence, Arkad Makarovitch, vous l'aimez tant. Ah, sauf nous. Qui donc l'aime? Il n'a parlé que de vous ces derniers jours. Vous êtes son jeune ami. Il va de soi que ma reconnaissance illimitée vous est à jamais acquise. »
Ainsi, elle faisait miroiter une récompense, de l'argent peut-être. Je l'interrompis aigrement.
« Quoi que vous puissiez dire, je reste inébranlable dans mon abstention. Mais pour répondre à vos confidences par une même sincérité, je vais vous faire connaître mes intentions définitives. Je remettrai incessamment cette lettre fatale à Catherine Nikolaïevna, mais sous réserve expresse qu'elle s'engage à ne pas entraver votre bonheur.
« C'est impossible !» prononça-t-elle, rougissante de dépit, à la pensée que Catherine Nikolaïevna pût la protéger, l'épargner.
« Je me tiendrai pourtant à ce parti, Anna Andreïevna. »«
Peut-être changerez-vous d'avis.
Adressez-vous à Lambert. »«
Arkad Makarovitch, vous ne savez pas quels malheurs peuvent résulter de votre entêtement, » menaça-t-elle.
« Des malheurs en résulteront, c'est bien possible. »«
Allons, en voilà assez. Et au nom de Dieu, ne m'amenez pas votre frère. »«
Justement, il veut réparer. »
« Il n'y a rien à réparer. Inutile. Je ne veux pas. Je ne veux pas. »
Oh, il se peut que j'aie été alors trop intransigeant avec elle.
« Dites-moi pourtant où couchera le prince. Ici ? » ?»«
Il va coucher ici, chez vous, sous votre garde.
Dès ce soir, alors, je déménagerai. »
Anna Andreïevna m'observait, irritée et muette. Je plaignais, oh, je plaignais cette fière fille. Mais je quittai la place sans lui jeter à ronger un mot d'espoir. Je tâcherai d'abréger. Fort de ma décision irrévocable, je me rendis tout droit chez Tatiana Pavlovna. Un grand malheur eût été prévenu si je l'avais trouvée alors. Mais ce jour-là, la malchance me poursuivait avec assiduité. Je passai ensuite chez maman, d'abord pour la voir, dans l'espoir aussi d'y rencontrer Tatiana. Or, Tatiana venait de partir, et maman était couchée, souffrante, éveillée par Lise. Celle-ci me pria de ne pas entrer. Après toute une nuit d'insomnie, elle vient de s'assoupir. J'embrassai Lise et lui dis 2 mots à peine, que j'avais pris une grande résolution et que j'allais sans plus tarder y conformer ma conduite. Elle m'écouta, placide. Ils étaient tous habitués alors à mes continuelles dernières décisions. Mais aujourd'hui, je ne tergiversais plus. Pour laisser à Tatiana le temps de rentrer chez elle, je stationnais dans la taverne lamentable où Lucie était si fort en vogue. Voici pourquoi je tenais tant à voir Tatiana Pavlovna. Je voulais qu'elle allât, d'urgence, prier Catherine Nikolaïevna de venir chez elle, où je lui restituerais le document. Je voulais tout expliquer, je voulais me justifier une fois pour toutes. Je tenais à cette justification, comme à mon dû. Cela fait, je plaidais la cause d'Anna Andreïevna, et j'entraînais Catherine Nikolaïevna et Tatiana Pavlovna, celle-ci en qualité de témoin, chez moi, c'est-à-dire chez le prince, et en un mot, je pacifiais et ressuscitais à la joie tout le monde, sauf Versilov et maman, hélas. Je m'imaginais détenir encore le document. Situation imbécile. Il faisait déjà sombre, il était près de 4 heures, quand de nouveau je me rendis chez Tatiana Pavlovna. « Elle n'est pas rentrée !» grogna la finnoise. Je revois le singulier regard en dessous dont elle accompagna cette fin de non-recevoir, mais à ce moment-là j'avais la tête dure. D'ailleurs, je me ressouvenais du pauvre prince qui me tendait les bras tantôt, et je me reprochais de l'avoir si brusquement quitté. En mon absence, peut-être s'était-il produit quelque grave accident. Il me fallait au plus tôt regagner mon domicile. Je le regagnais donc. Il ne s'y était pas passé grand-chose. Anna Andreïevna, par moi rabrouée, n'avait pas perdu courage. Depuis le matin, elle avait 3 fois déjà dépêché des gens, en dernier lieu son frère, chez le sieur Lambert. Puisque je trompais ses prévisions, elle mettait en l'ingéniosité de ce drôle et en l'influence qu'il pouvait avoir sur moi son espoir ultime. Elle s'étonnait que, si attentif jusqu'alors à pateliner autour d'elle, il ne donnât plus signe de vie. Elle ne pouvait se douter que, détenteur du document, il naviguait de ses propres voiles et vers un but nouveau. Dans cet état d'esprit, elle était, comme on pense, peu apte à distraire le vieillard, dont l'anxiété croissait jusqu'à des proportions menaçantes. Il posait de bizarres questions, dardait des regards soupçonneux, parfois pleurait. Le jeune Versilov, dont le papotage mondain lui avait été récréatif, ne s'était pas éternisé. Lui parti, elle dut produire Pierre Hippolytovitch, mais celui-ci ne fit pas florès. La répulsion qu'il inspirait au prince s'accrut lorsqu'il s'avisa de conter qu'il avait vu un bateleur décapiter des gens en public, que le sang sortait à bouillon, que cet homme rajustait ensuite la tête à la tranche rouge du cou sans se tromper de morceau, et que cela s'était passé en l'an 59. Effet déplorable. Et Anna Andreïevna dut avec précipitation exiler le chroniqueur. Par fortune, arrivait le dîner, commandé dès la veille par Alphonsine et Lambert à un habile cuisinier français, momentanément disponible et qui cherchait à se caser dans une maison aristocratique ou dans un club. Ce repas au champagne égaya le prince. Ensuite, alourdi, il voulut dormir. Il dormait toujours après le dîner. Anna Andreïevna lui avait préparé le lit. En s'endormant, il lui baisait les mains, disait qu'elle était son paradis, son espérance, sa houerie, sa fleur d'or. Bref, une terminologie des plus orientales. Enfin, il s'était endormi. C'est sur ces entrefaites que j'avais réintégré le logis. Anna Andreïevna entra précipitamment chez moi. Non pour elle, mais pour le prince, elle me suppliait de ne pas sortir, et lorsqu'il se réveillerait, de me rendre auprès de lui. « Sans vous, il est perdu. Il aura une attaque d'apoplexie. J'ai peur qu'il ne vive pas jusqu'à la nuit. » Elle ajouta qu'elle était forcée de s'absenter. « Peut-être pour 2 heures. » Elle commettait donc le prince à mes soins. « Et moi, j'accomplirai mon devoir, » termina-t-elle énergiquement. Elle s'en alla.
elle était partie, je l'ai su depuis, à la recherche de Lambert. En outre, elle avait une visite à faire au Fanariotov. Le prince se réveilla une heure après son départ. À travers la cloison, j'entendis des gémissements. Je le trouvai dressé sur son séant, en robe de chambre, et si effrayé par la solitude, l'unique lampe et la chambre étrangère, qu'à mon entrée il sursauta et se mit à crier. Quand il m'eut reconnu, il m'embrassa avec des larmes de joie. « Et l'on m'a dit que tu avais déménagé, que tu avais eu peur, que tu t'étais sauvé. » »«
Qui a pu vous dire cela ?»«
Qui ? Vois-tu, c'est peut-être moi qui l'ai inventé. » Peut-être quelqu'un qui me l'a dit. Figure-toi, je viens d'avoir un rêve. Un vieillard barbu et portant une icône cassée en deux entrait, annonçant « Ainsi se brisera ta vie ».
Je vois. Vous aurez su que Versilov avait brisé hier une icône.
N'est-ce pas ? Oui, oui. C'est Daria Onésimovna qui me l'a dit. Elle a transporté ici ma malle et le petit chien.
Et c'est pour cela que vous avez eu ce rêve.
Soit, mais c'est égal. Et figure-toi que ce vieillard me menaçait du doigt tout le temps. Où est donc Anna Andreïevna ?
Elle va revenir.
Elle est partie aussi ! S'écria-t-il douloureusement. Elle sera ici tout de suite. Elle m'a prié de rester auprès de vous.
Oui, ainsi notre André Petrovitch a perdu l'esprit. Je lui ai toujours prédit qu'il finirait par là.
Mon ami, attends. Il m'avait saisi tout à coup par ma redingote et m'attirait.
Tantôt, le propriétaire, chuchota-t-il, m'a apporté des photographies, de vilaines photographies de femmes, des femmes nues, mon cher, et dans des poses orientales. Vois-tu, je louais, mais à contre-cœur. De même, il a mené de vilaines femmes chez ce malheureux pour l'empoisonner plus facilement ensuite.
C'est toujours à propos de Von Zorn. Laissez donc, prince, ce logeur est une brute, rien de plus.
Une brute, rien de plus, c'est mon opinion. Mon ami, si tu peux, enlève-moi d'ici.
Et il joignit les mains.
Prince, cher prince, attendez, et peut-être j'arrangerai tout.
« N'est-ce pas ? Nous fuirons en laissant ici la malle, afin qu'il s'imagine que nous allons revenir. »«
Où nous enfuir ? Et Anna Andreïevna ?»«
Ensemble, ensemble, avec Anna Andreïevna. »«
Mon cher, je sens un gâchis dans ma tête. »«
Attends. Là-bas, dans le sac, à droite, il y a le portrait de Katia. Je l'y ai fourré tantôt, en cachette, pour qu'Anna Andreïevna... et surtout cette Daria Onésimovna ne s'aperçoivent de rien. Sors-le bien vite, avec précaution. Attention que l'on ne nous surprenne. Ne peut-on fermer la porte au verrou ?
Je trouvai à la place dite le portrait, dans un cadre ovale, de Catherine Nikolaïevna. Il le prit, l'approcha de la lumière et subitement pleura.
« C'est un ange du ciel !» exclama-t-il. Toute ma vie je fus coupable envers elle. Et voilà que maintenant, cher enfant, je ne crois à rien je ne crois. Mon ami, dis-moi, est-ce qu'on n'a jamais songé à m'enfermer dans une maison de fous ? Je dis des choses charmantes et tout le monde rit. Et tout à coup, on mène cet homme dans une maison de fous.
« Jamais on n'y a songé. C'est une erreur. Je connais ses sentiments. »«
Toi aussi, tu connais ses sentiments ? Eh bien, c'est parfait. Mon ami, tu m'as ressuscité. Qu'est-ce qu'ils ont dit de toi ? Mon ami, convoque ici Katia et qu'elle s'embrasse. Je les garderai et nous chasserons le propriétaire. »
Il se leva, joignit les mains et subitement se mit à genoux devant moi.
« Cher !» chuchota-t-il dans une terreur insensée. « Mon ami, dis-moi toute la vérité. Où va-t-on me mettre ?»«
Mais vous n'avez donc plus confiance en moi ?»
protestai-je en le redressant et en l'asseyant sur le lit. « Vous croyez que je suis aussi du complot ? Mais je ne permettrai à personne de vous toucher du doigt. »
« C'est ça.
ne permets pas !» balbutia-t-il en me saisissant avec force les coudes et en continuant à trembler. « Ne permets à personne et ne me trompe pas, parce que... est-ce que vraiment on m'emmènera d'ici ? Écoute, ce logeur Hippolyte ou comment, il n'est pas médecin. »
« Médecin ?
Ce n'est pas un cabanon, cette chambre !»
À ce moment, la porte s'ouvrit et Anna Andreïevna entra. Probablement, elle écoutait à la porte, quand, n'y tenant plus, elle avait trop brusquement ouvert. Le prince, que le moindre bruit faisait tressaillir, poussa un cri et s'enfonça la face dans l'oreiller. Enfin, il eut une crise qui se termina par des sanglots.
« Voici les fruits de vos agissements, » dis-je en désignant le vieillard.
« Non, mais bien les fruits de vos agissements à vous, »
rétorqua-t-elle acerbement. « Je m'adresse à vous pour la dernière fois, Arkad Makarovitch. Voulez-vous mettre au jour l'intrigue atroce ourdie contre un vieillard sans défense et sacrifier vos rêves d'amour insensés et enfantins pour sauver votre propre sœur ?
« Je vous sauverai tous, mais de la façon que je vous ai dite. Dans une heure, peut-être, Catherine Nikolaïevna sera ici. Je vous réconcilierai tous, et tout le monde sera heureux. »«
Amen, amène-la ici. Menez-moi chez elle. Je veux voir Katia et la bénir, » implorait le prince.
« Vous voyez, » dis-je à Anna Andreïevna, « vous entendez ce qu'il dit. À présent, en tout cas, « aucun document ne peut vous aider. »«
Aux yeux de tout le monde, ce document a justifié ma conduite et maintenant je suis déshonorée. Du moins, ma conscience est nette. Je suis abandonnée de tous, même de mon frère, effrayée par l'insuccès. J'accomplirai mon devoir. Je resterai auprès de ce malheureux comme sa servante, comme son infirmière. »
Mais il n'y avait plus de temps à perdre.
« Je reviendrai dans une heure. » « Et je ne reviendrai pas seule !»
avais-je crié en sortant.